printemps du livre Grenoble 2025, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième entretien de la librairie des étudiants au printemps du livre de Grenoble. J'ai eu le plaisir de rencontrer Julien Martinière, auteur de l'adaptation en roman graphique du livre « À la ligne » de Joseph Pontus. Paru en octobre 2024 en librairie indépendante, Julien Martinière signe une belle adaptation des feuillets d'usine de Joseph Pontus. Voici donc l'histoire de Joseph, venu s'installer en Bretagne pour suivre sa femme et désirant fuir le chômage provisoire qui lui colle à la peau, Joseph décide de devenir intérimaire et de travailler dans une usine. Dans le rythme soutenu des lignes de production entre les horaires de jour et de nuit, Joseph découvre les affres de l'usine. Julien Martinière, qu'est-ce qui vous a motivé à adapter sur les planches de dessin le livre de Joseph Pontus ?
Ce qui m'a d'abord motivé, c'est d'avoir été extrêmement marqué par la lecture du roman, qui a aussi énormément marqué mon éditeur, avec qui je faisais à l'époque un album jeunesse, et qui se passait déjà dans l'usine, dans le monde de l'usine. Et du coup c'est lui qui m'a dit tu devrais le lire, je pense que ça va te plaire, et effectivement c'est ce qui s'est passé. À partir de là on s'est posé la question de voir si c'était possible de l'adapter, achat de droits ensuite, etc. Puis voilà, ça s'est fait comme ça, mais c'est vraiment l'amour du livre qui a été vraiment le déclic, quoi.
Joseph Pontus décrit une paradoxale beauté de l'usine. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette beauté paradoxale?
C'est effectivement paradoxal, je pense, n'importe qui est passé par l'usine. Ce qui est mon cas quand j'étais étudiant, moi je bossais à l'usine pour me payer mes études. Et c'est vrai qu'il y a un peu toujours cette espèce de contradiction entre un univers qui est assez... qui est froid, qui peut être chaud en même temps, ça dépend où est-ce qu'on travaille. Voilà, il y a toujours cette espèce d'ambivalence entre... c'est un endroit aussi où il se passe beaucoup de camaraderie. Enfin, il y a plein de choses autour des hommes et des femmes qui la côtoient. Et en même temps, c'est un milieu qui est très dur et exigeant. Donc, il y a, je pense, un peu toute cette ambivalence-là et que Joseph Pontus arrive formidablement bien à retranscrire dans ses mots, quoi.
Dans son texte, mais en même temps aussi dans la bande dessinée, est-ce que vous reprenez des éléments de son texte, hein, finalement? Joseph Pontus parle de « mon usine », pour le citer. Est-ce qu'en la dessinant, elle est aussi devenue la vôtre, cette usine?
Quand on passe autant de temps avec les mots de quelqu'un, quand on passe autant de temps avec l'univers qui s'en dégage et tout ça, je pense qu'effectivement, il y a un moment où on s'approprie énormément cet univers-là. Après, moi, je suis quand même aussi issu d'une famille qui est très très liée au monde de l'industrie, alors qui n'est pas l'industrie agroalimentaire, qui est plus l'industrie automobile, mais ça fait quand même partie de mon ADN, puisque j'ai vraiment tous mes oncles et tantes qui travaillaient dans l'industrie. J'ai un grand-père qui était aussi... qui travaillait en usine et qui était aussi militant CGT, etc. Enfin voilà, ça laisse des traces forcément. Et donc, j'ai pas attendu les mots de Joseph Pontus pour dire que l'usine fait partie de ma vie, mais quelque part, elle était déjà là, quoi.
Donc avec votre expérience personnelle pendant votre job étudiant, de ce que vous nous avez dit, plus l'expérience de votre famille, est-ce que vous aviez besoin de retourner là-bas dans une usine pour pouvoir faire ce texte, ou est-ce que, à travers les mots de Pontus, c'était suffisant pour vous représenter, faire un mix des deux et créer cet ouvrage?
C'est vraiment un mixte, en fait, parce que je pense que des gens qui ont travaillé dans des abattoirs et tout ça, forcément vont dire qu'il y a des aberrations sur le matériel, sur tout un tas de choses, mais je voulais qu'il y ait cette espèce de croyance sur le fait que ça puisse paraître crédible. Donc après, je me suis quand même beaucoup renseigné sur les machines, les lieux, etc. Mais au final, on se rend compte que c'est pas forcément nécessaire d'être hyper crédible pour que ça marche, quoi. Il y a vraiment, à partir du moment où on met 4 boulons sur une plaque de métal, ça y est, on croit que c'est... on rentre dans l'usine et puis après voilà, pour tout ce qui est les machines d'abattage, tous ces trucs là en fait, ça on arrive à trouver en fait sur les sites des fabricants. On peut trouver assez facilement à acheter un tapis roulant, etc. et le voir sous tous les angles. Donc voilà, après, il suffit de servir un peu de documentation et ça marche très bien, quoi.
Il y a quelque chose qui m'a marqué dans l'adaptation, c'est que le texte de Pontus n'a aucune ponctuation. C'était son but de revenir à la ligne. Et là, il y a des virgules et des points dans ce qui est décrit. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu la main là-dessus, ou est-ce que ça a été votre éditeur, peut-être, qui a dit « Pour la rythmique de la bande dessinée, il faudrait une ponctuation ?»
Alors, c'est vrai que le texte de Pontus, il est tout en prose. Il y a vraiment cette forme de la mise à la ligne qui correspond parfaitement à ce qu'il décrit, hein, ce qui permet d'être sur le côté haché, le côté répété, etc. En bande dessinée, en fait, comme je me suis retrouvé quand même beaucoup à réintroduire des dialogues, etc., bah, en fait, la ponctuation, elle apporte quand même aussi une rythmique. Et le but aussi, c'était de se dire, ça n'est qu'une adaptation, c'est pas non plus la copie fidèle, ce qui ne présente pas forcément un intérêt grandiose. On passe d'un médium à un autre. Donc on passe de l'écriture, qui est celle de Pontus et qui restera la sienne. Et puis moi, j'ai essayé d'en faire autre chose à travers la BD, en essayant de rester fidèle à son esprit. Mais après, forcément, on est obligé de prendre des libertés, ne serait-ce que par le choix de certains chapitres qui n'ont pas été pris. Enfin voilà, forcément, c'est un travail d'adaptation, mais comme fait un cinéaste avec un film, où il peut partir aussi d'un matériau qui est un livre, ça va forcément devenir autre chose. Je pense que le tout, c'est d'éviter de trahir trop l'esprit de départ, quoi.
Je crois que vous le gardez très bien. Enfin, en tout cas, de ma lecture très personnelle, vous l'avez bien gardé. Dans votre adaptation sur les planches, où il y a aussi un très grand travail au niveau des mains. Très nombreuses pages, vous mettez en avant les mains. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent par le dessin, les mains ?
Bah, les mains, c'est quand même l'outil premier, on va dire. Et c'est vrai qu'en plus, les mains d'un travailleur, elles ont quelque part son ADN, son empreinte de ce qu'il a pu faire durant toute sa carrière. On n'a pas les mêmes mains quand on travaille dans un bureau, quand on travaille en tant que maçon, je ne sais quoi. Donc, il y a vraiment toute une symbolique qui s'exprime à travers les mains. Donc, c'était un moyen aussi peut-être de mettre l'accent que sur les tâches. Et après tout, à partir du moment où on montre des mains, on arrive à comprendre des gestes. Et voilà, après, c'est un peu des espèces de métaphores par l'image, quoi. Mais ça me semblait être des choses qui fonctionnent, en tout cas.
Il y a de très nombreuses citations que faisait Joseph Pontus, que vous reprenez aussi dans ce texte, soit Apollinaire, il y a également Zola, Dumas. Quelles sont, vous, vos références ?
Alors, si on... Pour peut-être la petite histoire, moi quand j'ai commencé le texte, on était, enfin l'adaptation, Joseph Pontus était encore vivant. Et on a d'ailleurs présenté à lui et son éditeur le projet d'adapter. Et lui était très éloigné de la bande dessinée. Ça, c'était vraiment quelqu'un qui avait une très très grande culture livresque. Et en fait, nos échanges ont été avant tout porté sur justement des livres, mais aussi sur des films, des documentaires, alors qui n'étaient pas forcément que en lien avec la vie ouvrière d'ailleurs, mais voilà, des choses qui l'avaient marqué. Et au final, on s'est quand même rendu compte qu'on avait une espèce de culture commune, hein, notamment avec certains films. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'avais travaillé sur des questions autour de la viande, etc. Et du coup, on avait vu les mêmes documentaires qui nous avaient marqués, dont il parle dans le livre, comme celui de Franjus avec les abattoirs, où là, on est dans un esprit tout noir et blanc, qui a ce paradoxe d'être à la fois sur, on va dire, l'horreur de montrer la mort, mais en même temps, la beauté qui s'en exprime. Et en fait, c'est vrai que... Toutes ces choses-là, au final, par cette rencontre, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de points communs, et c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que je suis allé vers ce texte-là. Après, lui avait peut-être une tendance un peu plus anard aussi. Moi, j'ai beaucoup plus lu de choses autour de la culture marxiste, communiste, etc. Donc c'est quand même tout ce bagage-là qui fait que aussi ça m'a amené à m'intéresser à ce texte qui forcément en toile de fond a toute une logique autour de la classe ouvrière, de la représenter, de pas forcément de la magnifier, parce que c'est pas du tout le propos, c'est au contraire d'être assez juste dans les paradoxes qu'il peut y avoir aussi. Mais voilà, en fait, c'est vraiment tout un tas de textes à la fois politiques et puis aussi des textes comme L'Établi, par exemple. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait que ça a donné ce que j'ai pu avec cette adaptation.
Pour ceux qui nous écoutent, un travail à l'usine, en tout cas dans le cadre de Joseph Pontus, c'est 40 tonnes de crevettes par jour en production, 10 000 couronnes de crevettes à fabriquer. Est-ce que vous pensez qu'un texte comme celui-là, à la ligne, que ce soit votre adaptation ou celui de Pontus, peut changer le regard d'un consommateur sur le produit final qu'il trouve dans un commerce?
Bah, c'est fort possible, parce que c'est vrai que je pense que quand on n'a pas travaillé dans l'agroalimentaire, on ne se rend peut-être pas compte de ces quantités qui sont colossales en fait, de nourriture. Et quand on se questionne un petit peu, et c'est vrai qu'il se questionnait beaucoup parce que bah, une journée à répéter les mêmes tâches, c'est long, donc voilà, le cerveau cogite beaucoup. C'est vrai que ça donne un peu le vertige hein, de penser à tous ces chiffres. C'est vrai que quand il annonce qu'ils arrivent le lundi et qu'il y a 900 vaches à abattre, et ça c'est bon pour un abattoir, donc je sais pas combien il y a d'abattoirs en France, mais on imagine un peu à la fin de l'année les millions d'animaux qui ont été abattus. Je pense qu'effectivement ça donne à réfléchir sur notre mode de consommation, qui est en plus très injustement réparti. C'est-à-dire qu'il y a énormément de viande ou de crustacés ou de ce que l'on veut qui finissent à la poubelle. Et c'est quand même extrêmement... Enfin, c'est terrible d'en arriver là avec, quand on sait bah, potentiellement toute la souffrance qu'il y a eu avant, etc. Quoi.
J'inviterai ceux qui nous écoutent à feuilleter et même à acheter votre ouvrage. À la page 40-41, vous faites une terrible opposition. Je vais décrire pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore la chance de pouvoir vous découvrir à travers vos dessins. À la page 40, ce sont peut-être une famille, des amis qui sont au bord d'un lac en train de faire une grillade de poissons. Et sur la page 41, ce sont ces mêmes poissons pris dans les filets, on peut imaginer quelques jours plus tôt. Est-ce que c'est une façon aussi de rappeler au lecteur, et là je rejoins donc ma question précédente, de rappeler au lecteur ce qui se passe, la réalité derrière ce que nous mangeons?
Bah oui, forcément. il y a vraiment cette logique-là. Alors, même si faut pas prendre ce texte comme étant une espèce de pamphlet écologique ou enfin écologiste ou je ne sais
quoi.
Mais
il peut amener à réfléchir.
Mais
à
voilà,
faire réfléchir.
Par contre, il y a vraiment ce questionnement qui est au cœur de toute cette industrie en fait. Et c'est vrai que c'est à prendre vraiment comme une industrie avec ses logiques de rythme d'abattage, de rythme du tapis roulant, et du coup avec ce que ça va impliquer derrière en termes de cadence de travail. Et je pense que ça par contre c'est vraiment ce qui est au cœur de la problématique de Pontus, c'est de voir comment l'usine elle a vraiment un impact sur les hommes en premier lieu qui travaillent à l'intérieur de l'usine. Et avec potentiellement derrière bah, toutes les implications aussi que ça peut amener sur la maltraitance animale, parce que voilà, faut abattre tant d'animaux, faut aller toujours plus vite. Et ça, c'est quand même peut-être d'ailleurs une problématique qu'on entend assez peu des fois de la part des défenseurs des animaux. Après, moi, je sais que ça m'a amené quand même aussi à avoir une certaine réflexion sur moi-même, ma consommation de nourriture, hein, puisque c'est vrai que quand vous dessinez tout ça, c'est pas forcément évident derrière de se dire bon allez on va se taper un bon steak quoi. C'est sûr que ça a quand même un impact de toute façon, et sur la manière aussi dont on va peut-être se diriger plus vers un certain type de nourriture et pas un autre, enfin forcément. Mais je pense que voilà, c'est un livre qui a plein d'entrées, et quelque part chacun peut y prendre un peu ce qui correspond à ses convictions ou je ne sais quoi. Mais encore une fois, c'est vraiment l'homme qui a avant tout, enfin l'homme avec un grand H, c'est avant tout l'homme qui est au cœur de la préoccupation de Pontus, parce qu'il était aussi éducateur, et du coup qu'il avait quand même spécialisé, et il avait quand même un regard très très particulier sur le genre humain, les gens qui l'entouraient et tout ça. Enfin, il y a beaucoup d'humanité dans ce qu'il écrit et dans le regard qu'il pose sur les autres.
D'un point de vue technique, comment vous avez travaillé cette bande dessinée? Est-ce que vous êtes encore de la team qui font les planches à la main, au dessin, ou est-ce que vous êtes passé peut-être sur numérique? Comment ça s'est passé, même au niveau de la réalisation de tous ces dessins?
Alors non, tout est sur papier. Moi, je travaille avec des rotrings, donc c'est des crayons dans lesquels on vient remplir avec de l'encre de Chine, et qui sont à la base les crayons qu'utilisent les architectes pour réaliser des plans. Chose qu'ils ont plus ou moins abandonné aujourd'hui, parce que tout se fait en numérique. Mais du coup, il y a vraiment une finesse dans le trait qui peut s'opérer avec ces stylos-là. Et après, bah, je suis toujours attaché au papier, parce que du coup, il y a une trace qui reste, qui n'est pas du tout la même que quand on traite tout en numérique, hein, même s'il y a forcément un passage par le numérique, parce qu'après, il faut nettoyer les planches, il faut en faire des fichiers pour envoyer à l'imprimeur, mais il y a vraiment cet attachement au papier. Et quelque part, c'est aussi rentrer un peu dans la logique du labeur. Enfin, il y a vraiment cette espèce de symbiose, je trouve, entre le travail, peut-être, entre guillemets, plus intellectuel, mais en même temps, qui se rapproche aussi de la routine, du côté très, très laborieux, le fait de revenir toujours systématiquement à sa planche à dessin, tout ça. Enfin, quelque part, on est des petits artisans. Voilà, c'est exactement la même chose, quelque part. C'est différent parce que voilà, on fait ça chez soi, mais il y a finalement quelque chose d'assez proche.
Moi, ce qui m'a frappé, ce sont ces tout petits dessins qu'il y a de temps en temps entre les pages, enfin, de temps en temps de manière régulière. Finalement, ça doit séparer des formes de chapitres. Qu'est-ce qui symbolise pour vous ces tout petits dessins?
Alors, ces petits dessins, c'est un peu des têtes de chapitres, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment le fait d'amener, c'est un peu comme si c'était la petite vignette qui allait résumer ce que l'on va lire par la suite. Donc c'est un peu des têtes de chapitre qui viennent accompagner le numéro du chapitre que l'on va lire. Et ce qui n'est pas d'ailleurs forcément facile de trouver quelle image peut un peu résumer entre guillemets quoi. Mais voilà, c'est un pur effet de style, on va dire.
Un effet de style toujours, on va continuer là-dessus. La page 96-97, je fais plein de références, comme ça les gens pourront aller voir les pages. On a deux immenses dessins. Moi, ça m'a fait penser à Gustave Doré. Uh-huh. Dès que j'ai ouvert, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces dessins? Vous représentez des personnes qui sont dans une mine.
C'est ça.
Et au niveau du grain du dessin, est-ce que... Parce qu'ils sont quand même très différents des autres dessins jusqu'à présent, dans le texte. Pourquoi d'un coup, celui-là a eu cet aspect-là?
Alors celui-là... Aussi, il semble très texturé parce qu'on est, sous terre et que, du coup, l'ambiance est très sombre. Il y a peut-être des scènes quand même qui reviennent dans le livre où justement ça se passe la nuit. On peut trouver un grain un peu similaire. C'est vraiment à partir du moment où vous êtes dans un enjeu autour de la pénombre, on va dire. Moi, je travaille beaucoup avec le système du point que je viens densifier plus ou moins, qui me permet de travailler mes contrastes de noir et de blanc. Et qui permettent comme ça à la fois de construire des volumes sur les personnages ou les décors, et qui permettent en même temps de jouer sur des ambiances lumineuses. Et vous citiez Gustave Doré, c'est vrai que c'est quand même un illustrateur qui m'a énormément marqué. Je suis pas le seul du tout, je pense que ça reste quand même une grande figure de l'illustrateur français qui fait l'unanimité. C'est quelqu'un qui a en plus qui était un bourreau de travail. Il a illustré énormément de choses sur des thématiques très très variées. Il a pu travailler sur la Bible, l'enfer de Dante, des fables de La Fontaine. Enfin, ça reste pour moi une grande figure et qui m'a forcément énormément marqué quoi. Et c'est vrai que mon dessin au trait, alors lui il fonctionnait, c'était de la gravure, hein, mais finalement, ce qu'on fait avec le rotring a un rendu qui n'est pas si éloigné que ça en termes de grains, etc. Donc, forcément, oui, ça y fait penser. En plus, on reste dans le noir et blanc. Donc,
en plus, voilà. Oui. Dans vos inspirations, toujours, est-ce qu'il y a eu quelque part, en tout cas, peut-être pour la deuxième partie de l'ouvrage qui se passe donc à l'abattoir, est-ce qu'il y a eu aussi des influences peut-être d'Autodix ou de Jérôme Bosch?
Alors. C'est toujours difficile de dire les références parce que c'est
les auteurs. Est-ce qu'il y a une inspiration?
En fait, il y a toujours, on est toujours marqué par des dessins. Effectivement, les dessins d'Autodix avec la guerre, C'est des choses que je connais. Et il y a toujours, vous savez, le cerveau, il fonctionne toujours comme ça. Il range des choses dans une partie, là, un coin, et puis ça va ressortir de manière des fois un peu informelle lorsqu'on travaille sur une thématique. Moi, j'ai été un grand absorbeur d'images pendant mon cursus aux Beaux-Arts. Donc forcément, que toutes ces choses-là, ça finit un peu par ressortir d'une manière, quoi. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette référence au noir et blanc, hein, qui fait que voilà, on retrouve aussi forcément un certain nombre de choses. Mais j'ai pas dessiné en me disant je vais faire du Autodix ou quoi que ce soit. C'est peut-être des choses, oui, qui se retrouvent après coup. Mais ça, c'est toujours marrant. Des fois, c'est vrai quand les gens nous disent ah bah tiens, ça me fait penser à ça. Après coup, on dit bah ouais, c'est vrai que c'est flagrant, mais sur le coup, je n'avais pas spécialement pensé, mais voilà, c'est un peu comme ça.
Au long des pages, vous développez aussi les métaphores de la guerre. Est-ce que l'usine, c'est la guerre ?
Alors, est-ce que c'est la guerre ? Je pense que ça dépend vraiment peut-être du domaine de l'usine à proprement parler. Il y a toujours un côté extrêmement difficile. Après, moi, l'agroalimentaire, de toute façon, je pense que le livre, il est un peu construit comme ça, avec un côté vraiment crescendo alors l'horreur, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas dans le côté hyper pesant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espèce d'apothéose qui se passe avec l'abattoir et du coup qui vient sur la fin du livre. Alors, en tout cas, Pontus le décrit comme étant une espèce de guerre. Il compare vraiment ça avec la Première Guerre mondiale, les tranchées, etc. Là, je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça entre l'odeur du sang, les viscères qui sont présentes, etc. Enfin, je pense que c'est quand même un univers qui doit être assez impitoyable à ce niveau-là, quoi. Après, bah, chaque usine a ses particularités. Moi, quand j'étais dans la sidérurgie, c'est vrai que le haut fourneau et tout ça, je pense que ceux qui étaient au plus près, qui se tapent des chaleurs pas possibles, le corps le ressent, quoi, tout ça. Donc il y a un côté, extrêmement dur, quoi, qui est là. Et même les corps qui sont transformés. Moi, je me souviens il y avait des opérateurs qui passaient toute la journée à trimballer comme ça des carters de moteur qui faisaient 80 kilos, ils avaient vraiment une musculature qui était complètement surdéveloppée d'un côté, quoi. Et du coup, il y avait vraiment cette espèce d'empreinte dans le corps. On va pas comparer avec les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, mais il y a quand même
des marques
là. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect-là où l'usine elle vous imprime dans le corps, quoi. Et il le montre assez bien, d'ailleurs. Quand il dit que, parce que lui c'était quand même un assez grand gaillard, alors pas forcément, c'était pas forcément un athlète et tout, mais il avait quand même une certaine stature. Et c'est ce qu'il raconte très bien, que voilà, pousser des carcasses toute la journée, bah vous êtes cassé en rentrant le soir, quoi, et le corps souffre. Hein, et ça c'est en ce sens-là où c'est un peu une guerre permanente. Et de toute façon, c'est assez prouvé que les ouvriers ont une espérance de vie qui est moindre que d'autres catégories sociales. Donc forcément, c'est très très contraignant pour le corps, quoi.
On parlait de la guerre dans ces métaphores, mais aussi dans sa représentation que vous faites. Il y a une double page qui m'a vraiment marqué, la page 147. Sur fond blanc, vous représentez deux personnages qui lavent l'abattoir, mais on ne voit qu'eux. Il y a un côté presque très apocalyptique, d'un coup blanc, on est centré sur eux. Ah. Est-ce que c'était aussi une volonté pour vous de représenter ce moment-là du métier sur un fond blanc, peut-être pour qu'on laisse notre imaginaire se développer? Quelle est l'interprétation du dessinateur, ouais, sur cette double page?
Bah là, il y avait un côté, en fait, c'est un moment où ils sont en train de passer un produit de lavage antibactérien qui crée une espèce d'énorme mousse blanche, quoi. Et quand on cherche un peu, alors on arrive un peu à trouver des documents qui montrent ça. On voit que ça devient, ouais, il y a vraiment tout est recouvert de blanc et c'est presque, voilà, ça fait presque disparaître le décor, en fait, tout bêtement. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de montrer cette réalité-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus que les ouvriers qui ressortent de cet espace-là. Ils sont un peu seuls au monde à ce moment-là, hein, en train de nettoyer cette partie de l'usine, quoi. Après, il faut s'amuser aussi graphiquement. C'est-à-dire que là, comme vous parliez tout à l'heure d'une autre double page, on voit des mineurs, parce qu'il y a toute cette référence aussi à ce qui se passait à une certaine époque, parce qu'ils se, ils se placent aussi dans une tradition de la culture ouvrière, donc les mines forcément, où là c'est tout l'inverse, on est vraiment dans des noirs très denses, bah là ça joue un contre-pied, c'est-à-dire que vous avez comme ça des jeux avec des pages très pleines, des pages très vides, et l'idée aussi c'est quand le lecteur va tourner les pages, il est pas... Il n'y a pas toujours la même chose quoi, sous les yeux. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison-là.
Joseph Pontus nous a quittés en février 2021, à l'âge de 42 ans, des suites d'un cancer. Mais son texte, on l'a dit, est toujours avec nous, en librairie indépendante. Maintenant, il y a le vôtre. Est-ce que sa famille a lu votre ouvrage? Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
Alors, j'ai eu, sur des séances de dédicaces, ouais, j'ai vu des cousins, j'ai vu une tante, j'ai vu une nièce, je crois, aussi. Il faut savoir quand même que ce livre, ce n'est pas la première adaptation. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des adaptations théâtrales, il y a eu des adaptations en musique, il y a des lectures aussi en musique qui existent. Donc, c'est pas une première, on va dire, même si là, bah, c'est une première sous cette forme-là. J'ai eu un cousin qui était venu à une rencontre et qui attendait de me voir, en fait, et de voir comment je parlais de l'adaptation pour oser lire le livre. Et je pense que peut-être il voulait voir un peu la sincérité qu'il y avait derrière ce choix d'aller sur l'adaptation, parce que c'est vrai que c'est un peu on va dire une espèce de mode aujourd'hui dans le roman graphique ou la BD d'aller vers des livres qui ont marché, et puis on se dit voilà, on va faire un coup commercial, on l'adapte en BD, voilà, ça marchera. Moi j'avoue que je me suis pas du tout posé la question, j'ai vraiment été extrêmement touché par le texte et parce qu'il faisait écho à plein de choses, et c'est vraiment ça qui a été mon fil conducteur. Après, bien sûr, si ça marche, tant mieux, mais je veux dire, il y avait en tout cas une grande sincérité dans le fait de travailler ça, et je pense que les personnes de sa famille que j'ai pu rencontrer ont vu cet aspect-là. Donc après, bon, est-ce qu'ils ont aimé tout ça, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, ils ont vu cette sincérité-là. Ouais.
À la ligne, c'est le titre de votre roman graphique publié aux éditions Sarbacane. Très belle adaptation, réussie, moi je vous le dis, en tant que lecteur, parce que pour avoir aussi beaucoup aimé le texte de Pontus, certains textes en adaptation ou en réécriture sont complémentaires, et je pense sincèrement que votre bande dessinée, votre roman graphique est complémentaire au texte de Pontus.
Bah, merci beaucoup.
Donc cette adaptation, bien sûr, est à retrouver en librairie indépendante. Merci beaucoup, Julien Martinière.
Merci à vous.
Merci d'être venu à ce micro pour partager ensemble et parler de votre ouvrage. Amis auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous vendredi pour découvrir le prochain entretien de la librairie des étudiants au printemps du livre de Grenoble, l'entretien réalisé avec Rim Batal. La capsule auditive de notre entretien du jour est à retrouver sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8. à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite une belle journée et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.